Adam Veilleux et Olivier Turcotte dans le retour en force à Cool FM.
Grosse semaine côté politique, rentrée parlementaire à Québec, rentrée parlementaire cette semaine à Ottawa. Et nous allons en parler immédiatement avec notre chroniqueuse politique Marie-Ève Doyon, qui est fondatrice de Médias Relations Publiques et chroniqueuse au Journal de Québec et au Journal de Montréal. Marie-Ève, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci beaucoup.
Bon, le discours du trône n'est pas encore terminé. Très long discours du trône, mais les dernières lignes, qu'est-ce que tu as pu retenir de quelque chose de fracassant dans ce discours du trône à Ottawa?
Rien de vraiment fracassant, on le sait habituellement, les discours du trône vont présenter de grandes visions, de grandes lignes. C'est évidemment, aujourd'hui, on remarque que c'est toujours un petit peu surréel de voir Julie Payette, qui est en ce moment sous enquête, lire le discours écrit pour Justin Trudeau, qui est un peu blâmé de l'avoir mise dans cette position. Alors ça faisait partie des faits marquants. Mais si on va sur le fond, évidemment, c'est un discours du trône qui est sous fond de COVID avec un certain nombre de priorités, dont la santé, l'économie, l'égalité et l'environnement. Julie Payette nous annonce donc que le gouvernement a l'intention de continuer à soutenir les entreprises. Et d'emblée, on dit qu'il n'y aura pas d'austérité. Le Canada est entré dans la pandémie de COVID avec l'une des meilleures positions parmi tous les pays du G7. Et je ne pense pas que le gouvernement Trudeau va avoir quelque gêne que ce soit à continuer à investir dans les Canadiens, même si plusieurs voudraient le voir diminuer les dépenses parce qu'évidemment, le budget sera loin d'être équilibré.
Oui, d'ailleurs, sauf qu'en même temps, on est peut-être rentré avec la meilleure position, mais il ne faudrait pas en sortir avec la pire non plus après la crise.
Il ne faudrait pas en sortir avec la pire après la crise côté budget équilibré ou non, mais qu'est-ce qui sera le pire? Et c'est un peu ce que Justin Trudeau va nous répéter ce soir dans une allocution à la Nation à 18h30 sur tous les grands réseaux. Le premier ministre, pour la première fois dans l'histoire, va s'adresser aux Canadiens le jour même d'un discours du trône pour nous réitérer les grandes lignes, entre autres à propos de la COVID, mais aussi pour nous répéter que la pire chose qui pourrait arriver au Canada, c'est un ralentissement économique grave, donc une poursuite des hausses des taux de chômage. Mme Payette a mentionné pendant son allocution qu'il était possible qu'il y ait d'autres fermetures d'entreprises temporaire et qu'à ce moment-là, la subvention salariale viendrait ou des mesures supplémentaires viendraient aider les entreprises qui pourraient être fermées localement en fonction des hausses de cas dans certaines régions. C'est donc dire que le gouvernement se prépare à des fermetures éventuelles à nouveau, ce que personne souhaite. Alors, par rapport aux autres pays du G7, est-ce qu'on veut avoir un budget qui ne sera pas déficitaire ou on veut avoir une économie qui sera capable de reprendre avec des créations d'emplois et un chômage qui sera quand même explicable et qu'on pourra combattre? Ça fait partie des défis que va devoir relever ce gouvernement-là.
Bon, la subvention salariale, on a annoncé qu'elle serait prolongée jusqu'à l'été 2021.
Pour ce qui est de c'est l'intention du gouvernement.
C'est ça. Pour ce qui est de la PCU, là, elle va être convertie avec l'assurance chômage. Donc, on espère qu'il va y avoir un petit peu moins de trous aux fraudeurs, dans le fond, parce qu'on sent là, qu'il y a eu quand même pas mal de fraudes au niveau de la PCU.
Il y a eu plusieurs sortes de fraudes, hein, sur la PCU. Il y a eu évidemment les gens dont l'identité a été usurpée et pour lesquels il va y avoir une mauvaise surprise quand les T4 vont arriver. Mais il y a eu aussi des gens qui ont abusé du principe de la prestation canadienne d'urgence en travaillant un peu au noir et en réclamant la prestation canadienne en même temps. Et c'est ce qu'on veut éviter en s'en allant vers un système de chômage ou de chômage adapté pour les travailleurs autonomes ou les pigistes. Est-ce que ce système-là, il doit être élaboré à partir de rien parce qu'il n'existe pas en ce moment. La prestation canadienne d'urgence se termine à la fin du mois. Il y a des populations qui sont beaucoup plus touchées que d'autres, entre autres les gens, les pigistes de la communauté artistique, les spectacles ont repris, mais à très petite échelle. Les gens de l'industrie du tourisme, alors qu'on sait que les hôtels sont très faiblement occupés en ce moment. Et tous les gens qui œuvrent dans ces milieux-là vont, et la restauration qui a été très mise à mal, vont devoir se trouver des façons de bénéficier de l'assurance-emploi qui va être annoncée par le gouvernement dans les prochains jours. Si, évidemment, ce discours du trône est appuyé par les oppositions et qu'on ne se retrouve pas dans des élections, ce que personne ne croit à son ancien.
Non, je pense pas qu'on va se ramasser en élection non plus, mais sait-on jamais demain. Discours à la Nation ce soir, Marie-Ève, on parle entre les branches que ce serait vraiment pour conscientiser la majorité des Canadiens à une résurgence de la deuxième vague de COVID-19 au pays. Serait-ce un message aussi aux provinces de voulant dire mettez plus de mesures pour contrer la deuxième vague parce qu'on pourrait se faire frapper dur?
Ben le Canada va réitérer, en tout cas Justin Trudeau va réitérer l'importance de suivre les règles. La Colombie-Britannique s'en va en élection alors que les cas ont recommencé à monter chez eux. Au Québec, le discours est de plus en plus confus. Le gouvernement du Québec, pour citer Régis Labeaume avant-hier, est en train de l'échapper d'aplomb. Très difficile communication au Québec cette semaine sur la COVID. Et il y a eu une insistance, et j'ai vu passer dans le fil Twitter d'une collaboratrice ou d'une ancienne collaboratrice de Justin Trudeau, une petite insistance là, qui me fait tiquer sur l'utilisation d'une application de traçage. Julie Payette en a parlé dans son allocution en disant que certaines provinces l'utilisent et qu'il souhaite que cette utilisation soit généralisée. Est-ce qu'ils vont insister un peu plus? Évidemment, la santé est une compétence provinciale. Les premiers ministres provinciaux se sont réunis la semaine dernière pour demander à Ottawa d'augmenter sensiblement les transferts en santé. Et il n'y en est absolument pas question dans le discours d'aujourd'hui.
Est-ce que tu es d'accord? Parlons-en des communications. On va revenir à Québec un petit peu. Là, le docteur Arruda qui s'ingère un petit peu dans le champ de compétences des ministères pour imposer peut-être d'aller dans les maisons privées, puis se revient sur sa décision. On ne sait pas s'il a reçu un texte, on ne sait pas de qui, mais il est revenu. Monsieur Arruda, là, on commence à jouer sur sa crédibilité un peu.
Mais le docteur Arruda a eu beaucoup, beaucoup de capital de sympathie au début de la pandémie et rapidement, on s'est rendu compte qu'il est peut-être un petit peu ce qu'on appelle en relations publiques un kid Kodak. Il aime beaucoup la caméra, il y a certaines expressions ou manies physiques qui font que la caméra aussi est sympathique, mais on pardonne de moins en moins aux experts de santé publique parce qu'il commence à y avoir des doutes sur la gravité et l'importance de la pandémie. Puis le docteur Arruda prend beaucoup de place dans ces points de presse-là. Alors en ce moment, mais le nombre d'orateurs se multiplie à Québec. Auparavant, c'était que François Legault qui prenait la parole comme principal orateur. Mais là, avec son confinement, on voit Christian Dubé, on voit Geneviève Guilbeault, on a ramené le ministre de l'Éducation un peu plus tôt à la rentrée. Et là, le message devient confus. Et le docteur Arruda, voulant probablement clarifier des choses, y est allé cette semaine de deux bourdes, la première étant l'annonce d'une deuxième vague, alors qu'il s'est imposé dans une conférence de presse où c'était pas à son tour de parler. Et c'est une annonce importante qui peut avoir une incidence sur la stabilité économique et la stabilité de la population qui a un doute ou non sur la poursuite de la pandémie. Et cette annonce-là aurait dû être faite par le ministre de la Santé ou par le premier ministre. Et c'est M. Arruda qui l'a faite. Et hier, évidemment, il a parlé des démarches qui sont entreprises avec la sécurité publique pour voir si les policiers pourraient pas agir de manière plus ferme sur les rassemblements dans les domiciles. Et le docteur Arruda a fait l'erreur de dire qu'il travaillait à ce que les policiers puissent entrer dans les maisons. Ce matin, Geneviève Guilbeault a été obligée de faire du patin par en arrière sur cette glace-là. Et elle a eu beaucoup de difficultés à affirmer, sans l'ombre d'un doute, que les policiers ne vont pas entrer dans les domiciles.
Mais elle était quand même ferme un matin, là, Mme Guilbeault. Là. On la sentait quand même très honnête en disant qu'ils ne veulent pas aller là. C'est ça qu'elle a dit, il ne faut jamais dire jamais.
Elle la sentait aussi irritée de devoir faire ces correctifs-là. Le sanctuaire du domicile, on en a parlé, c'est un acquis sur lequel personne ne veut reculer. Et je pense que le gouvernement ne veut pas avoir à s'expliquer devant la population d'avoir violé ce droit-là.
Effectivement. Donc, côté de la rentrée parlementaire à Québec, bon, là, il y avait également un débat au Parti québécois hier. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de l'écouter. Je ne sais pas si tu l'as regardé un peu.
Moi non plus, je n'ai pas été en mesure de le regarder.
C'était le dernier débat.
c'était le dernier débat, mais le signe que ni toi ni moi n'avons eu l'occasion de le regarder, c'est aussi le fait que moi, c'est passé entièrement sous mon radar parce que j'étais sur d'autres dossiers, notamment la rentrée parlementaire à Québec, ce qui fait que probablement beaucoup de militants, et j'ai beaucoup d'amis militants du Parti québécois dans mon fil Facebook, et personne ne parle de ça ce matin. C'est donc un coup d'épée dans l'eau. Je ne pense pas que c'est ce débat-là qui va avoir changé grand-chose dans la course au PQ, qui est plus ou moins inintéressante en ce moment.
Donc, est-ce que, si on revient aussi peut-être à Ottawa, à Québec, le projet de loi 61 qui devient le projet de loi 66 en terminant, est-ce qu'il y a des chances que ça fonctionne mieux cette fois-ci?
J'ai été assez fermement critique du projet de loi 61 pour les raisons qu'on connaît. Et aujourd'hui, le projet de loi 66, je dois avouer que certaines des modifications sont extrêmement intéressantes, notamment l'augmentation des pouvoirs de l'autorité des marchés publics pour faire des enquêtes. La liste des projets, par contre, sera fermée et on n'y voit plus le troisième lien, on n'y voit pas non plus le tramway de Québec.
Il y a une vingtaine de projets, là, si je ne me trompe pas, qui ont été écartés.
Il y a 21 projets qui ont été retirés. La ministre s'est dite ouverte à en ajouter ou à les amender, mais elle n'a absolument pas consulter les oppositions là-dessus. Par contre, elle a accepté certaines des critiques des oppositions qui étaient, à mon avis, justifiées, entre autres les critiques qui permettaient de prolonger de facto l'état d'urgence sanitaire, qui permettait également à des ministres de s'octroyer l'immunité parlementaire sur des gestes posés de bonne foi, qui facilitait aussi les expropriations. Cette fois-ci, il y a une facilité d'expropriation, mais un droit de contestation qui demeure. Donc, il y a des beaux gestes qui ont été faits pour ce projet de loi-là, qui n'accélérera peut-être pas réellement tant de projets que ça, mais au moins, il y a des gestes qui ont été faits. Les oppositions vont certainement déchirer leur chemise, mais en commission parlementaire, tout le monde va essayer de ne pas voir ce projet de loi-là se retrouver dans un bâillon.
Effectivement. Donc, on va suivre ça cette semaine. Marie-Ève, on se reparle la semaine prochaine. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec moi.
Ça va toujours trop vite. Au revoir.
Bonne journée.